Les déportations de la population belge durant la Première Guerre mondiale est un phénomène méconnu. Pour l'extension de l'ULB à Gedogne, l'historien Arnaud Charon revient sur ces moments souvent occultes.
Je remercie l'extension ULB de m'avoir invité ce soir à présenter devant vous un sujet qui est donc méconnu, à savoir les déportations de la population belge pendant la Première Guerre mondiale. Il existe quatre types de déportations. Il y a eu premièrement les déportations, les prises d'otages qui ont eu lieu pendant l'invasion en 1914. Il y a ensuite eu ce que j'appelle les déportations judiciaires, qui sont plutôt des déportations politiques, qui font suite donc à une condamnation judiciaire suite à des faits de résistance, suite à des faits patriotiques. Et enfin, les deux types de déportations qui vont nous occuper ce soir, à savoir les déportations en vue du travail forcé, soit en Allemagne, soit dans le nord de la France. Lorsque l'on parle aujourd'hui de déportation, on pense aux déportations de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on parle de camps de concentration, on pense tout de suite à Auschwitz, à la Shoah. Mais il faut savoir qu'il y a eu des déportations donc, pendant la Première Guerre mondiale et qui sont complètement tombées dans l'oubli dans notre société. Cet oubli est, selon moi, directement lié à l'après-guerre des déportés. Et ça, vous allez le voir tout au long de cet exposé. Mais c'est également dû à une absence d'études historiques approfondies sur le sujet. Je ne vais pas ici détailler l'historiographie, ce serait beaucoup trop long. Notez seulement que les ouvrages les plus complets datent des années 20 et donc sont difficilement accessibles puisqu'il faut vraiment se rendre dans les grandes bibliothèques pour pouvoir y avoir accès. Et finalement, c'est aussi paradoxalement du côté allemand qu'on a commencé à étudier ces déportations seulement à partir des années 2000 avec la thèse de doctorat de l'historien Jens Thiel qui a été publiée donc en 2007 mais qui est en allemand et qui est donc grandement inaccessible ici en Belgique puisqu'il faut évidemment parler allemand pour la comprendre. Je vais vous présenter les causes des déportations, comment elles se sont déroulées, les conditions de vie des déportés. Je vais brièvement expliquer comment ça s'est passé à Gedogne. Et ensuite, j'expliquerai évidemment l'après-guerre des déportés, qui se base sur une quête de reconnaissance, sur une quête d'indemnisation et sur la défense véritablement des déportés. Ensuite, j'aborderai le procès que les déportés ont intenté à l'Allemagne et j'en viendrai à la mémoire et à la conclusion. Alors, en novembre 1914, le front se stabilise. L'occupant allemand divise le territoire belge en trois zones, la zone des opérations et la zone des étapes qui sont sous autorité militaire et la zone du gouvernement général qui dépend d'un gouverneur civil. Donc pendant une grande partie de la durée de la guerre, ça va être von Bissing et il va lui dépendre directement de l'empereur Guillaume II. Alors la découpe du territoire correspond à ceci, la zone des étapes comprend les deux Flandres, occidentale et orientale, et à partir du 1er janvier 1917, le Tournaisis, la région en gros du Borinage et l'arrondissement d'Arlon. Retenez quand même ce découpage parce que ça va être important après, notamment pour le Tournaisis, la région de Mons et l'arrondissement d'Arlon. Très rapidement, l'occupant émet une série de décrets régissant la vie quotidienne de la population et organise les réquisitions en tout genre, les denrées alimentaires, les matières premières, mais aussi l'outillage. Bref, toutes les ressources économiques du pays vont être réquisitionnées par l'occupant. Et les usines vont fermer les unes après les autres, qui va créer un chômage extraordinaire en Belgique, ce qu'on n'avait encore jamais vu. Un tiers de la population active de la population belge va se retrouver au chômage, ce qui représente environ 640 000 personnes. La politique économique allemande va être guidée, dans un premier temps, jusqu'en 1916, par des intérêts plutôt rationnels. Et je reviendrai plus tard, évidemment, sur la seconde partie, qui voit là vraiment une exploitation profonde de nos contrées. Alors, jusqu'en automne 1916, l'autorité allemande, présente dans le gouvernement général, autorise des actions en faveur du bien-être de la population. Les aides alimentaires peuvent entrer en Belgique via la Commission for Relief in Belgium, via le Comité national de secours et d'alimentation. Et aussi, les autorités allemandes autorisent les autorités communales à embaucher les chômeurs pour des travaux de terrassement, de voirie, etc. Cependant, émerge très rapidement l'idée de profiter de cette main-d'œuvre disponible en grande quantité, d'autant plus que les Allemands voient véritablement les chômeurs comme un danger potentiel, puisqu'on a toute une masse de jeunes hommes potentiellement pouvant faire partie de l'armée qui se retrouvent finalement oisifs et dans le dos de l'armée allemande. Donc c'est véritablement pour eux un danger. D'un point de vue du droit international, les déportations au travail forcé restent plutôt vagues dans les conventions de La Haye. En effet, elles n'interdisent pas en soi le travail forcé, qui était admis sous certaines conditions. D'ailleurs, les prisonniers de guerre peuvent être soumis au travail forcé. D'ailleurs, tous les belligérants vont y avoir recours durant le conflit. On peut réquisitionner également la population civile pour ce qu'on appelle les travaux d'état d'urgence, qui doivent donc servir au bien commun de la population, par exemple dans le cas de catastrophes naturelles. En revanche, il est véritablement interdit de recruter de force la population civile des territoires occupés pour le service de l'armée et pour tous travaux servant directement les intérêts militaires de l'occupant, tout comme l'occupant ne pouvait utiliser les chômeurs à son profit. Et jusqu'à l'automne 1916, eh bien, les Allemands vont respecter globalement ces conventions de La Haye en termes vraiment de travail forcé de ce point de vue-là. Néanmoins, pour faire face, donc, comme je l'ai dit, à cette menace que représente cette masse de chômeurs, les Allemands vont mettre en place, dès la fin de l'année 1914, une propagande pour véritablement encourager les chômeurs à partir travailler volontairement en Allemagne. Cette propagande est diffusée via les Deutsches Industriebüro, qui sont chargés de recruter donc, les travailleurs, et qui diffusent une propagande de recrutement à travers tout le pays et tous les grands centres industriels du pays, Bruxelles, Liège, Charleroi, Mons, Namur, etc. La propagande diffusée promet un bon salaire, une prime de départ, mais également des aides pécuniaires et alimentaires pour les familles qui restent au pays et des soins médicaux gratuits. Sur cette affiche de propagande, on peut vraiment le voir, elle est tout à fait éloquente. Déjà, le texte parle de lui-même. « Ouvriers, voici le fruit de votre travail, l'aisance dans le ménage, la santé de vos femmes et enfants, le bonheur et la tranquillité pour vous dans votre vieillesse. » Les usines qui fonctionnent à plein régime, travail porte-bonheur, un petit ange qui déverse tout plein d'argent depuis une corne d'abondance vers une matrone qui est quand même bien en chair, bien habillée, qui est en train de servir la soupe, une bonne grosse marmite fumante à des enfants qui sont quand même bien potelés aussi, bien habillés. On a du pain plutôt appétissant sur la table et on a derrière elle des casseroles, des marmites fumantes, notamment aussi des cafetières. Ce sont des denrées qui sont devenues rares pendant la guerre. Donc, c'est vraiment, le message est vraiment éloquent. Partez travailler en Allemagne, vous assurerez le bien-être de votre famille. Alors, cette propagande ne va pas forcément être très efficace, puisque à l'automne 1916, seuls 20 000 Belges sont partis volontairement en Allemagne, alors que l'Allemagne s'attendait évidemment à un afflux massif de volontaires. Elle s'attendait à plusieurs centaines de milliers de personnes. On peut voir ici toute l'ambiguïté de l'occupation allemande, qui jusqu'en 1916 est donc une occupation rationnelle. En effet, bien que force d'occupation relativement répressive, les autorités allemandes cherchent à obtenir une certaine confiance de la part de la population belge et agit en conséquence. C'est pourquoi les aides aux chômeurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les travaux d'intérêt public qui permettent aux communes d'engager des chômeurs sont autorisés et même encouragés. On a ici une citation du directeur général de l'administration de l'hygiène du ministère de l'Intérieur qui écrit en 1915 « À l'heure où doivent s'unir les efforts de tous pour procurer du travail aux classes ouvrières, l'amélioration de la situation sanitaire des communes est spécialement à recommander aux autorités locales. Il convient de préconiser surtout l'exécution de travaux permettant l'emploi de beaucoup de main-d'œuvre comparativement à l'importance des matériaux à acquérir. » J'ai la conviction que chaque administration communale, soucieuse de la responsabilité qui lui incombe, découvrira sur son territoire des travaux sanitaires dont l'exécution est œuvre nécessaire à l'époque que nous traversons. Pourtant, au même moment, le président du Zivilverwaltung, donc l'administration civile de la province du Luxembourg, exige au bourgmestre de sa zone des réponses à plusieurs questions sur l'étendue de ses secours et affirme, je cite, La distribution de secours réguliers en espèces ou sous forme de produits alimentaires a maintes fois pour effet qu'on refuse d'accepter du travail au salaire réduit d'ordinaire actuel. Il demande notamment, parmi toutes ces questions, dans quelle mesure de tels secours empêchent le goût du travail, c'est-à-dire l'acceptation d'occupation. Cette situation, à nouveau, se comprend par le fait donc, que chaque Belge oisif représente finalement un danger pour l'armée allemande. Il est donc véritablement primordial pour l'occupant de mettre au travail cette population inactive et compte véritablement sur la propagande des Deutsches Industriebüro. En parallèle à cette propagande et devant l'échec de celle-ci aussi, le ministère de la guerre prussien et le commandement suprême de l'armée, repris entre-temps par Hindenburg et Ludendorff, ce qui se caractérise par un tournant vers ce qu'on va appeler la guerre totale, et les industriels allemands vont faire pression sur les autorités civiles. Ils adoptent le plan Rathenau, du nom de son principal concepteur, Walter Rathenau, qui était le président de l'Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Il s'agit d'un plan en trois temps. Il s'agit donc, premièrement, de saper l'industrie belge et surtout les branches concurrentes à l'industrie de guerre allemande. En parallèle, on va interdire l'emploi des chômeurs par les autorités communales et on limite les aides, comme celles du Comité national de secours et d'alimentation, afin d'encourager véritablement un maximum de personnes à partir en Allemagne. Et finalement, à force d'obstination et devant surtout l'échec des différentes actions et propagandes, et vraiment sur la pression des concepteurs du plan Rathenau, le gouvernement allemand autorise les déportations de masse de la population belge. C'est en octobre 1916 que les déportations ont débuté, d'abord dans la zone des étapes, et les premières déportations dans le gouvernement général ont lieu les 26 et 27 octobre 1916 depuis Quiévrain. L'organisation des déportations dépend des différents commandements locaux, ce qui fait qu'elles étaient véritablement pratiquées différemment selon le zèle ou non de l'officier qui en était en charge. Alors comment ça se passe ? Les hommes sont principalement convoqués par voie d'affiche. Ils sont ensuite triés dans un local de la localité. Et lors de leur retraite, les Allemands ont oublié de reprendre certaines archives. Et donc, on a pu avoir, dès la fin de la guerre, des documents allemands qui indiquent comment ça se passait. On a ici un petit schéma qui explique donc, en trois étapes le tri. Les hommes devaient aller au premier poste pour voir s'ils étaient chômeurs ou travailleurs. S'ils étaient chômeurs, ils étaient dirigés vers le deuxième poste. Sinon, ils étaient renvoyés vers la sortie. Au deuxième poste, ils subissent un très rapide examen médical pour voir s'ils étaient aptes ou pas à travailler en Allemagne. S'ils étaient inaptes, ils sont redirigés vers la sortie. Et s'ils étaient aptes, ils sont dirigés vers le troisième poste où on voit qu'il y a un bureau du Deutsches Industriebüro où là, on leur propose un contrat de travail. Évidemment, la plupart des Belges vont refuser et vont être envoyés directement dans une salle d'attente d'où ils vont être envoyés à la gare et puis directement en Allemagne. Ce sont les hommes âgés de 18 ans, parfois moins, à 55 ans, parfois plus, en bonne santé, qui sont envoyés en Allemagne en train, dans des wagons à bestiaux ou dans des wagons de troisième classe. Ils ne sont absolument pas équipés pour faire un tel voyage, surtout par le froid qui règne durant ce rude hiver 1916-1917. C'est un hiver extrêmement rude. Et 58 500 personnes vont être envoyées en Allemagne depuis les zones du gouvernement général. Entre la fin octobre 1916 et février-mars 1917, même si le pic des déportations vont se dérouler vraiment entre la fin octobre et mi-décembre 1916. Après la guerre, la commission d'enquête sur la violation des règles du droit des gens, des lois et des coutumes de guerre va demander à chaque commune de dresser la liste des déportés. À partir de ces listes, elle va établir des statistiques. Moi, j'ai réencodé toutes ces statistiques dans des fichiers Excel et ça m'a permis de créer des cartes représentant le phénomène de déportation pour la première fois. Alors, ce qu'on peut constater, premièrement, ce sont des grandes disparités selon les régions, dans ce qui pourrait s'apparenter à une sorte d'improvisation dans la réalisation des déportations. Même si le gouverneur général von Bissing était responsable de l'établissement du plan général, il y avait une certaine liberté relative qui était laissée aux gouverneurs de province et aux Kreischefs, donc aux chefs plus locaux. Ces derniers étaient en contact avec les responsables des Deutsches Industriebüro qui, eux, leur communiquaient les besoins en termes de nombre et de qualification de la main-d'œuvre. C'est pourquoi les déportations donc, se sont déroulées d'une manière si différente selon les régions à travers le pays, avec, selon les témoignages rassemblés après la guerre aussi, avec plus ou moins de violence. Derrière ces premières constatations, ce qu'on peut déceler quand même, c'est une certaine logique industrielle derrière ces déportations du gouvernement général, j'insiste, puisque ce sont vraiment deux logiques différentes. Les Allemands ont essentiellement besoin d'ouvriers, c'est pourquoi les zones industrielles sont plus touchées que d'autres régions. Les premières vagues de déportation sont concentrées d'ailleurs sur les régions industrielles qui présentaient un fort taux de chômage, le Kreis de Mons, avec notamment Quiévrain, Jemapp, Lessines, Soigny, La Louvière, etc. Sur le Kreis de Nivelles également, avec Tubize, Braine-l'Alleud, Wavre, etc. En effet, la plupart des usines de ces régions sont à l'arrêt depuis l'invasion. Les forges de Clabecq, par exemple, et les industries autour de Tubize ont été pillées de leur outillage et ont subi de nombreux dommages dès l'invasion. Les ouvriers de ces usines sont, par contre, très fortement recherchés par les industriels allemands, notamment les industries du fer et de l'acier de la Rhénanie-Westphalie, dont les industries de la Ruhr. D'ailleurs, les industriels de la Ruhr vont faire pression directement sur von Bissing pour accélérer la mise en place des déportations dès le début du mois d'octobre. Le même raisonnement s'applique à la région de Lessines, par exemple, où les carrières ont été mises sous séquestre. Lorsque les Allemands décident de les rouvrir en 1915, eh bien, les ouvriers refusent de reprendre le travail. Ils sont remplacés par des prisonniers de guerre russes, renforçant évidemment le taux de chômage dans ces communes, dont la population sera fortement touchée par les déportations, puisque les ouvriers carriers sont fortement recherchés par les Allemands pour leurs compétences. Il en va de même pour l'arrondissement de Namur. Et la province du Luxembourg, et particulièrement l'arrondissement d'Arlon, va, malgré une faible industrialisation et peu de chômeurs, va être fortement touchée par ces mesures de déportation. Et ça s'explique par le fait que les déportations vont débuter fin de l'année 1916 dans l'arrondissement d'Arlon. Mais si vous vous souvenez bien, j'ai dit que le 1er janvier 1917, l'arrondissement d'Arlon passait dans les zones des étapes. Et donc l'arrondissement d'Arlon va connaître une déportation vers l'Allemagne d'abord, et vers le nord de la France ensuite. En revanche, d'autres régions sont complètement épargnées par les déportations. Les zones charbonnières de Charleroi et les bassins industriels de Liège et du Limbourg vont être épargnés, puisque les charbonnages ne représentent pas une branche concurrente à l'industrie allemande, et l'Allemagne a tout intérêt à ce que les charbonnages continuent à produire. Les mineurs vont rester sur place, même si certains vont accepter les conditions d'embauche des Deutsches Industriebüro. La province de Liège est très peu touchée par la mesure, car même si les préparatifs avaient été pris, les déportations étaient prévues pour janvier-février 1917, et comme je l'ai dit tantôt, les grandes vagues de déportations vont s'arrêter en décembre 1916. Et en règle générale, la Flandre du gouvernement général, c'est-à-dire les provinces d'Anvers, de Limbourg et l'actuel Brabant flamand, vont être relativement épargnés, ou en tout cas vont être moins touchés par d'autres régions de Wallonie. Alors j'ai pu calculer par rapport au recensement de 1910 l'impact que ces déportations ont eu pour chaque commune, c'est-à-dire le pourcentage de déportés par rapport à la population masculine pour chaque commune du pays. Malgré une forte répartition des déportations dans la zone des étapes et dans le Borinage, l'arrondissement de Namur et l'arrondissement d'Arlon, on peut voir que l'impact des déportations vraiment s'est concentré sur la zone du Borinage en remontant vers Tubize, sur l'arrondissement de Namur et sur l'arrondissement d'Arlon. Donc on a vraiment trois zones qui sont très fortement touchées par ces déportations. Alors une fois arrivés en Allemagne, les déportés sont parqués dans des camps de répartition ou ce que les Allemands vont appeler les logements pour les ouvriers de l'industrie. Ils sont appelés de cette manière pour éviter l'association de ces camps aux camps de concentration qui ont une valeur juridique, une valeur légale puisqu'ils sont repris dans les conventions de La Haye. Alors, on ne va pas utiliser un terme légal pour quelque chose qu'on sait qui est illégal. Donc, on va plutôt appeler ces camps des camps de répartition. Ce sont généralement des annexes aux camps de prisonniers de guerre qui sont aménagés à la hâte, puisque ces camps ne devaient pas servir, selon les plans, pour une durée trop longue, puisque les déportés ne devaient séjourner dans ces camps que quelques jours avant la signature de leur contrat et avant d'être répartis dans l'industrie allemande. Voici ce que le plan disait exactement. Le séjour des personnes dans les centres de répartition doit être organisé de telle façon que chacun obtienne le plus rapidement possible un contrat de travail. Une discipline sévère et l'obligation de participer aux tâches internes nécessaires à l'entretien des camps doivent inviter les Belges à accepter la première opportunité d'obtenir un travail bien payé en dehors du camp, comme représentant une amélioration souhaitable de leurs conditions. Ça, évidemment, c'était le plan sur papier. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque la plupart des Belges vont refuser de signer un contrat de travail et vont rester dans ces camps tout au long de leur séjour forcé en Allemagne ou bien dans des camps de discipline. Les camps n'étant pas prévus pour ça, les hommes sont logés à plusieurs centaines dans des baraquements qui ne sont pas chauffés, qui sont tous serrés, donc ça favorise évidemment le développement de maladies. Et les Allemands vont mettre en place toute une série de mesures coercitives pour véritablement forcer les déportés à accepter de signer un contrat de travail. Alors, j'ai décidé de vous lire un témoignage de déporté, ça parlera plus que tout ce que je pourrais dire. Il s'agit du témoignage de Fernand Nachtegal, qui est un déporté de Genneval, qui a été envoyé en Allemagne le 15 novembre 1916. Voici ce qu'il écrit. « Nous sommes arrivés bientôt à Wittenberg, qui devait être notre lieu de destination. Nous étions là, parqués comme des bestiaux, couchant à même la terre, ayant pour toute literie une maigre paillasse en fibre de bois et deux couvertures sous lesquelles l'on grelotta toute la nuit. Notre régime était le suivant. Pour la nourriture, le matin à 6 heures un bol de café, qui n'en avait que le nom, à 9 heures 200 grammes de pain, ersatz, à 11 heures et demie et le soir à 5 heures, soupe qui était uniquement composée de betteraves pourries, de têtes et d'arêtes de poisson dans laquelle, lorsqu'on laissait reposer un peu, on trouvait un fond de sable d'un doigt d'épaisseur. Les premiers jours, étant encore plus ou moins munis de provisions, il nous a été impossible d'avaler cela, mais bientôt, la faim aidant, nous sommes arrivés à nous disputer les restes de soupe qu'un porc aurait refusé. Le lendemain, à 4h30, l'on vint nous réveiller. Après le déjeuner, nous sommes descendus vers la mine où nous attendait le directeur. Je savais me débrouiller tant soit peu en allemand, et pour ceci, mes camarades m'avaient choisi comme chef de file. Voyant que je m'avançais, il me dit de dire à mes camarades qu'ils avaient à aller au magasin chercher les outils nécessaires et qu'un chef les conduirait au lieu du travail, sur quoi je lui fais comprendre qu'aucun d'entre nous n'était venu ici volontairement, puisqu'il avait son travail en Belgique, et que, comme nous avions été amenés ici de force, nous ne pouvions accepter la besogne. Alors, il me dit de le suivre, et nous menant sur une place écartée, nous a fait garder par des sentinelles, avec ordre de ne pas nous laisser rentrer, avant que nous n'ayons accepté le travail. Il faisait une température sibérienne, gelant à pierre fendre, et nous étions obligés de piétiner sur place, car nous ne pouvions nous éloigner de la place fixée, sous peine de coups de crosse. Nous avons voulu résister jusqu'au bout, gardant encore tous au fond du cœur l'espoir que ce n'était que vaine menace, et que le soir nous pourrions remonter à la baraque. Le soir est venu, et avec lui s'est envolée notre dernière illusion. Nous avons tenu pourtant et avons passé une nuit terrible. Vers 3h du matin, un des nôtres est tombé, évanoui. Je me suis adressé à la sentinelle et lui ai dit qu'il y avait là un homme qui se mourait et qu'il lui fallait des soins plus vite, sur quoi il s'est mis à me rire au nez en me disant que nous n'avions qu'à nous rendre. Le voilà donc le modèle de la civilisation, voir devant soi un homme qui se meurt et en rire. Alors, on peut aisément s'imaginer que dans de telles conditions, eh bien évidemment, les Belges ne sont pas prêts de signer un contrat de travail au sein de l'économie de guerre allemande, puisque d'une part, il y avait vraiment cette haine que provoquait en eux l'utilisation des mesures coercitives, et puis d'autre part, parce que signer un contrat de travail, c'était participer potentiellement à la défaite de l'armée belge et de l'armée alliée. La plupart des déportés sont restés dans ces camps de répartition, où ils devaient exécuter des travaux intérieurs ou extérieurs au camp. Ils ont dû subir le froid intense de cet hiver 1916-1917, les travaux harassants, le manque de nourriture et de vêtements chauds, ainsi que les mauvais traitements. Et environ 1250 personnes sont mortes en Allemagne du fait de la déportation. Au début de l'année 1917, on se rend compte de l'échec des déportations et des mesures coercitives. Seuls 13 000 Belges ont accepté de signer un contrat sous la contrainte. Et c'est un chiffre évidemment bien inférieur aux attentes, puisque les Allemands espéraient plusieurs centaines de milliers de bras. Au niveau international, les protestations contre les déportations affluent, non seulement des pays alliés de la Belgique, mais aussi des pays neutres, comme les États-Unis, les Pays-Bas, l'Espagne et le Vatican. Le pape Benoît XV va dénoncer clairement en chaire, publiquement, les violations du droit lors du consistoire du 4 décembre 1916. En Belgique, évidemment, la figure de proue de ces protestations est sans conteste le cardinal Mercier, qui va écrire à plusieurs reprises au gouverneur von Bissing pour véritablement faire cesser ces déportations. Mais les protestations émanent de tous les milieux, de la magistrature, des sénateurs, des députés, etc. Aux États-Unis, on voit même des meetings qui sont organisés à New York, à Boston, à Chicago, par les membres de l'American Rights League, réunissant près de 1500 personnes à Minneapolis ou à Philadelphie, où l'on fait justement lecture des différents appels du cardinal Mercier, et on assiste véritablement à une mobilisation internationale contre ce que l'on va qualifier de traite des Blancs. Finalement, devant ces diverses pressions, l'empereur Guillaume II va, par rescrit impérial en date du 14 mars 1917, va mettre fin aux déportations, mais uniquement à partir du gouvernement général. Donc les 20 à 25 000 déportés qui se trouvaient encore dans les camps de répartition vont pouvoir rentrer chez eux à partir du mois de mai 1917, même si beaucoup, en rentrant chez eux, vont être directement redirigés vers le nord de la France. Comme je l'ai dit, ce rescrit ne concerne pas la zone des étapes. Les déportations vont débuter au début du mois d'octobre 1916, aussi dans cette zone des étapes. Mais ces déportations vont, elles, continuer jusqu'à la fin de la guerre et vont toucher 62 155 personnes, pour être exact. Et comme je l'ai dit, plus ceux qui vont être directement redirigés vers le nord de la France lors de leur retour d'Allemagne. Les travailleurs forcés de cette zone sont envoyés dans le nord de la France ou en Belgique et sont regroupés dans des camps ou dans des formations qu'on appelle les Civil Arbeiter Battalion, les bataillons de travailleurs civils qui sont organisés d'une manière militaire. Entre octobre 1916 et début 1918, 34 de ces bataillons vont être constitués et affectés à divers travaux, comme la construction de lignes de défense, notamment la fameuse ligne Hindenburg. En effet, depuis septembre 1916, les autorités allemandes désirent renforcer les systèmes de défense entre Lens et Soissons, soit à peu près 160 km, et les prisonniers russes qui y étaient affectés ne suffisaient plus. Les déportés belges vont donc construire des tranchées, mais également des bunkers en béton armé, etc. D'autres de ces bataillons sont affectés à des travaux de construction, d'abris souterrains, de tranchées, de placement de voies ferrées, de terrassement pour les routes endommagées, de déchargement de munitions, etc. Beaucoup de Belges vont se retrouver aussi dans la forêt de Mormal et dans les environs, donc entre Maubeuge et Valenciennes, où ils sont soumis à l'abattage de bois, qui est forcément nécessaire pour les tranchées. Et dans la région de Verdun, les déportés vont être utilisés dans les carrières. C'est là qu'on va notamment retrouver beaucoup de Lessinois qui vont se retrouver donc dans la région de Verdun, puisque c'était des ouvriers qualifiés pour ces travaux. Ici, donc, on est dans une autre logique, puisque ce sont des déportations qui sont d'ordre purement militaire, en totale violation donc, des conventions de La Haye, qui en interdit, en son article 52, la participation des populations aux opérations de guerre contre leur patrie. On peut voir ici un des effets de ces déportations sur Jan Tijdgaat, qui est un déporté de la ville de Gand. Avant sa déportation, eh bien, il pesait 96 kilos, et après un mois et demi, eh bien, il n'en pèse plus que 58, et il a dû être soigné à l'hôpital Saint-Jean, à Bruxelles. Alors, les conditions de vie sont les mêmes qu'en Allemagne, voire pire, puisque les logements sont misérables, les déportés doivent loger là où ils le peuvent. Il y a le manque de vêtements chauds, le manque d'hygiène et de soins médicaux, sans compter évidemment les mauvais traitements et le danger de la proximité du front. Et d'après les chiffres officiels, entre 1056 et 1300 personnes ont trouvé la mort dans ces bataillons. Alors, durant les déportations, les familles vont être privées de leur soutien. Beaucoup vont écrire au gouverneur von Bissing et à d'autres autorités allemandes en vue de faire rapatrier les hommes déportés pour de multiples raisons, principalement des pères réclamant leurs fils pour les travaux des champs, des parents invalides ou des femmes réclamant leur fils ou leur mari car il est le seul soutien, ou tout simplement parce qu'il s'agissait de travailleurs qui ne devaient pas tomber sous l'arrêt de déportation. Ces déportations vont avoir néanmoins un effet favorable pour les Allemands, paradoxalement, puisque à partir de l'automne 1916, on va observer une explosion du chiffre d'embauche plus ou moins volontaire. Et on compte, au milieu de l'année 1918, 130 000 volontaires qui sont partis travailler en Allemagne. Deux raisons à ça. La première, c'est la peur qu'ont engendré ces déportations, puisque la population voit revenir assez rapidement les premiers déportés dans un état de faiblesse très avancé. Ils rentrent malades, voire complètement invalides. La seconde raison est d'ordre plus matériel, puisque en février 1917, les autorités allemandes, toujours dans ce cadre du plan Rathenau, ordonnent que les usines de plus de 12 ouvriers disposent d'une autorisation pour continuer à fonctionner. La plupart, évidemment, refusent, et les usines qui ferment sont peu à peu démantelées, et les ouvriers, privés de travail et d'aide, n'ont parfois d'autre choix que de s'embaucher volontairement pour satisfaire aux besoins de leur famille. Au final, les conditions de détention et de travail sont telles que la plupart des déportés, qu'ils étaient en Allemagne ou dans le nord de la France, rentrent affaiblis, malades ou incapables de reprendre leur travail, comme je l'ai dit. D'après les chiffres officiels, 2614 personnes ont trouvé la mort en déportation, mais on pourrait évaluer le nombre de décès à 6000, puisque ce chiffre de 2614 ne prend pas en compte les déportés qui sont décédés après leur retour. Et à Jodogne, vous allez me dire. Les déportations à Jodogne et dans le canton se déroulent donc le 17 novembre 1916. L'arrêt daté du 3 novembre et stipule que les hommes de plus de 17 ans, jusqu'à 55 ans inclus, devront se trouver sur la place du marché. Comme partout, les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les instituteurs et les professeurs ne doivent pas se présenter au contrôle. 84 Jodonois sont de cette manière déportés, soit environ 4,5% de la population masculine de l'époque, ce qui est en fait dans une moyenne relativement peu élevée, puisqu'on a certaines villes qui vont voir partir entre 10 ou à 20% de leur population masculine, comme par exemple dans le canton Gendrin-Gendrenouille, qui voit partir 11% des hommes du village. Au total, dans le canton, 606 hommes vont être déportés, soit 4% de la population masculine du canton. Ils vont être déportés vers le camp de Mesquet, dans Westphalie, et certains vont aussi se trouver dans le camp d'Altengrabau, près de Magdebourg. La durée moyenne de déportation est de 6 à 12 mois. 13 déportés sur les 606 vont mourir en captivité, et la grande majorité de ces déportés avaient entre 18 et 50 ans. 44 avaient moins de 18 ans, et 2 en avaient entre 50 et 60 ans. Si on prend un peu de hauteur pour comparer, l'arrondissement de Nivelles compte 6023 déportés, soit 6,7% de la population masculine de l'arrondissement. Et au niveau de la province du Brabant, on va compter 9888 déportés. C'est donc pas la province la plus touchée, puisque la Flandre orientale et le Hainaut comptent chacune environ 34 000 déportés. La province du Brabant a moins souffert que d'autres provinces, que d'autres régions, même si à certains endroits, la province a été fortement touchée, notamment dans les alentours de Tubize. Alors un déporté de Jodogne nous explique dans son témoignage que durant sa captivité au camp de Mesquède, il n'a pas véritablement subi de violence, mais, et je le cite, « seulement la nourriture et le feu faisaient défaut ». Il est ensuite parti travailler dans des carrières durant 7 mois, et là, oui, il a dû subir à plusieurs reprises des coups donnés avec des outils de chantier. Il est revenu en septembre 1917, malade, atteint de bronchite, dont il souffre régulièrement après son retour. Comme de nombreux déportés, ils vont continuer à être malades régulièrement suite à leur déportation. J'en viens à l'après-guerre des déportés, qui est véritablement une synonyme de quête de reconnaissance. Fort des promesses alliées quant à la restauration de la Belgique, notamment dans les fameux 14 points de Wilson, le gouvernement belge en exil prépare la reconstruction du pays. Il inscrit dans l'arrêté-loi du 23 octobre 1918 le principe du droit à la réparation des dommages de guerre physique et matériels. Et ce droit, et ça c'est tout à fait nouveau, ce droit est reconnu pour les dommages causés aux civils, alors qu'avait prédominé jusqu'à présent le principe de l'irresponsabilité de l'État. En effet, le ministre des Affaires économiques, Henri Jaspard, affirme que le législateur doit organiser juridiquement cette réparation, puisque la guerre elle-même n'a plus été une relation d'État à État, mais une relation d'individu à individu. Il déclare d'ailleurs devant la Chambre des représentants, et je le cite, « les victimes civiles sont des soldats du droit qui ont aussi eu leur tranchée ». La loi sur les réparations à accorder aux victimes civiles est votée le 10 juin 1919. Le législateur opte pour une réparation forfaitaire, puisque l'État veut véritablement parer au plus pressé, car il n'est pas en mesure financièrement d'offrir une réparation intégrale aux victimes civiles. On est le 10 juin 1919, donc le traité de Versailles n'est pas encore signé, et le gouvernement ne connaît pas, d'une part, l'ampleur des dommages à réparer, et d'autre part, l'ampleur des compensations que la Belgique pourra réclamer à l'Allemagne par le biais de la commission des réparations. Alors cette loi du 10 juin 1919 est dédiée à la réparation des dommages physiques causés aux civils. Et l'article 6 est dédié spécialement aux déportés qui se voient allouer une compensation de 150 francs s'ils ont été soumis au travail forcé durant plus de 3 mois sans rémunération correspondante. Cette loi permet aux déportés de présenter leur cas devant les cours et tribunaux des dommages de guerre. Ce sont des tribunaux administratifs temporaires qui voient affluer, dès la promulgation de la loi, les demandes de réparation. Juste pour les victimes civiles, on va compter 259 000 demandes. C'est énorme. Et tout dommage confondu, on va passer le million de demandes. Ces tribunaux sont composés de juristes et de spécialistes. Ils vont délivrer un jugement sur l'expérience de guerre des déportés, leur accordant ou non une pension en cas d'invalidité temporaire ou permanente, la réparation des frais médicaux occasionnés par leurs dommages physiques et la somme de 150 francs en cas de travail forcé, donc de plus de 3 mois sans rémunération correspondante. Cette loi ne satisfait pas les déportés, qui réclament véritablement une réparation complète des dommages causés, dont les montants peuvent grimper jusqu'à plus de 10 000 francs. Ils tiennent compte pour cela des salaires non perçus, puisqu'ils estiment qu'ils ont travaillé pour l'Allemagne, donc ils ont droit à un salaire, ce qui était d'ailleurs promis par la propagande, donc c'est pour ça qu'ils le réclament. Ils tiennent compte aussi de la détérioration des vêtements, des soins et de l'alimentation nécessaires aux déportés après leur retour, et évidemment des dommages et intérêts pour les souffrances morales et physiques. Les déportés, au final, ne voient dans cette loi que l'attribution d'une aumône par l'État, surtout pour les personnes n'ayant pas subi de dommages physiques. Et conscient des revendications des déportés, Henri Jaspard, donc le ministre des Affaires économiques, crée le 15 décembre 1919 la Commission centrale des déportés, réquisitionnés et prisonniers civils, qui est chargée de mener une enquête sur la situation des Belges, déportés, réquisitionnés et emprisonnés par les Allemands durant la guerre, en vue justement de l'amélioration de cette loi du 10 juin 1919. La loi est finalement révisée le 25 juillet 1921. Les sommes accordées en compensation de l'invalidité sont augmentées et l'article 6 est modifié. Les déportés, en fait, reprochaient à cette loi d'être trop restrictive. Les personnes dont la déportation avait duré moins de 3 mois étaient exclues d'office de toute réparation, et même si elles avaient été contraintes au travail forcé. De même, une égalité entre ceux qui avaient enduré une déportation de 3 mois et ceux qui ont été déportés parfois pendant plus d'un an était véritablement mal perçue par les déportés. Désormais, ils se voient donc attribuer la somme de 50 francs par mois de déportation s'ils ont été soumis au travail forcé sans une juste rémunération et s'ils ont constamment refusé de travailler. En conséquence, les tribunaux de dommages de guerre vont devoir rejuger tous les cas en fonction de cette modification, puisqu'ils avaient rendu des jugements définitifs, ce n'étaient pas des décisions administratives facilement modifiables. Les déportés s'impatientent devant la lenteur de ces juridictions et ne sont toujours pas satisfaits des montants qui leur sont alloués. Entre-temps, la Commission des réparations a fixé, en février 1921, les sommes que l'Allemagne doit à la Belgique en dédommagement de la guerre. Cette somme a été fixée à 32 milliards de francs or. Les dommages aux personnes ont été évalués à 3,2 milliards, dont 500 millions pour les pensions d'invalidité aux civils et spécifiquement 144 millions de francs pour les salaires qui n'ont pas été perçus lors du travail forcé. Et cette dernière somme va véritablement devenir le cheval de bataille des déportés dans cette après-guerre. Au sortir de la guerre, les déportés vont se rassembler au sein d'une multitude d'associations locales de défense. Chaque commune du pays, ou presque, va vraiment posséder son groupement, parfois même plusieurs, dans les villes ou dans des communes plus importantes. Citons pour Jodogne la Société des déportés du canton de Jodogne. Les associations plus importantes se dotent d'organes de presse. Par exemple, en février 1919, le Déporté, journal hebdomadaire de défense, voit le jour à Ornu et couvre donc la région du Borinage. Le but de ce journal est, je cite, « de faire connaître à la population belge les cruautés indignes d'un peuple qui se dit civilisé à l'égard d'une nation martyre ». C'est pourquoi ce journal lance en fait une série d'appels à témoignages, mais assure aussi de son soutien les associations locales, je cite, « pour que justice leur soit rendue ». Dans ce premier numéro du Déporté, la rédaction publie le texte de l'arrêté-loi d'octobre 1918, qui prévoit donc l'indemnisation aux civils, marquant véritablement la confiance que les déportés ont dans l'action du gouvernement. Il écrit « Nos déportés verront que le gouvernement s'occupe d'eux ». Et vraiment, au sortir de la guerre, il y a une confiance des déportés dans l'action du gouvernement. Ces associations vont être appelées à se liguer au sein de la Fédération nationale des déportés de Belgique. Les différents groupements se réunissent à Charleroi le 6 avril 1919 et fondent cette fédération, dont le siège s'établit à Bruxelles, et qui se dote d'un organe, lui aussi, officiel, bilingue, qui s'appelle le Bulletin des déportés. Les membres doivent être belges et doivent avoir été soit contraints au travail, soit déportés dans les camps de concentration de travailleurs civils en Allemagne, en France ou en Belgique. Alors cette association a plusieurs buts. Premièrement, la commémoration des déportations. C'est vraiment le but premier de cette fédération. Mais elle se veut également l'organisatrice de la défense des intérêts des déportés. Le bulletin des déportés va d'ailleurs éclairer les déportés sur les actions de cette fédération et fournir tous les éléments nécessaires à la défense des intérêts de ces victimes. C'est donc pas étonnant de voir dès le premier numéro la publication, là aussi, du texte de loi du 10 juin 1919, et qui sera analysé et commenté dans les prochains numéros. Ensuite, la Fédération nationale se donne pour but la recherche des responsables des déportations. Cette possibilité de traduire devant les tribunaux militaires belges les responsables d'actes contraires aux lois et aux coutumes de guerre est donnée par le traité de Versailles dans ses articles 228 à 230. Une liste d'Allemands à réclamer à l'Allemagne en vertu de ces articles est établie et elle reprend par camp ou par bataillon la nature des faits reprochés. Les chefs successifs sont réclamés, ainsi qu'entre 136 et 142 personnes auxquelles sont reprochés vraiment des faits très précis de violation du droit. Et au final, cette liste contient environ 900 inculpés qui sont réclamés par la Belgique pour être traduites en justice. Alors, bien que le traité de Versailles prévoit le jugement de ces criminels, il n'assure pas dans les faits la tenue de procès. D'ailleurs, aucun tribunal international compétent pour les crimes de guerre et violation des conventions internationales ne voit le jour. L'extradition est préférée à l'époque, d'où la création de cette liste. Néanmoins, les Allemands vont plutôt viser l'abandon de cette politique en suggérant que les incriminés soient jugés directement en Allemagne par les tribunaux allemands. Et au bout de plusieurs mois de négociations, et devant aussi vraiment le changement de politique des Alliés, qui est plus orienté vers une conciliation, les Alliés vont accepter en 1920 l'idée de procès en Allemagne. Ils se tiennent à Leipzig, ce sont les fameux procès de Leipzig, mais qui sont véritablement considérés comme une mascarade par les Alliés. Dès lors, Belges et Français vont juger par contumace les criminels de guerre devant leur cour martiale, mais évidemment sans aucun effet en ce qui concerne les responsables des déportations. En 1921, les déportés ne sont toujours pas satisfaits des lois sur les réparations aux victimes civiles et entendent bien réclamer une indemnisation complète des préjudices subis. La même année, la Fédération nationale des déportés modifie ses statuts et ajoute à ses buts non seulement le secours aux déportés nécessiteux, mais également la défense des intérêts des déportés en menant un procès contre l'Allemagne devant une juridiction nouvelle créée par le traité de Versailles, à savoir les tribunaux arbitraux mixtes. Ces tribunaux sont donc créés par le traité de Versailles et sont composés, dans le cas du tribunal arbitral mixte germano-belge, sont composés donc d'un juriste belge, d'un juriste allemand et d'un président originaire d'un pays neutre, dans ce cas-ci la Suisse, pour véritablement garantir l'impartialité du tribunal. Les compétences de ce tribunal sont le règlement des dettes et des contentieux nés de la guerre, ainsi que le règlement des questions liées aux dommages aux biens, aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du traité de Versailles et aux propriétés industrielles, littéraires et artistiques. Alors la Fédération nationale des déportés s'attache les services du jeune avocat Jacques Pirenne, qui est donc le fils du célèbre historien belge Henri Pirenne, qui est convaincu du bien fondé de l'action des déportés. Alors comme ce tribunal ne juge que des cas individuels, Jacques Pirenne constitue près de 48 000 requêtes et, conscient de la durée que ces procès pourraient prendre, l'avocat ne soumet devant le tribunal que 10 cas représentatifs de l'expérience des déportés. Après bien des atermoiements, le procès a finalement lieu à Paris du 7 au 10 janvier 1924 seulement. Les réclamations des déportés sont de plusieurs natures, une réparation entière des dommages physiques, une indemnité quant aux frais de départ, ce qu'on va plus ou moins appeler des coûts d'entretien. Donc, ils avaient dû se munir de chaussures, d'un nouveau costume, de vivres, entraînant une dépense conséquente pour des ménages déjà appauvris. Ils vont réclamer aussi le dommage pour les colis de vivres non reçus. Donc, les familles avaient la possibilité d'envoyer des colis de vivres aux déportés. Alors, généralement, ces colis n'arrivaient pas. Ils arrivaient soit aussi trop tard, et donc les denrées étaient périmées, soit ils arrivaient à moitié vides, et donc ces colis n'étaient pas forcément reçus. Et ils vont réclamer, évidemment, le recouvrement des salaires non perçus. Il serait beaucoup trop long d'expliquer en détail l'argumentation qui est vraiment très complexe de ce procès, puisqu'elle fait interagir tant l'arsenal juridique belge que le code civil allemand et la législation internationale, de la Convention de la Haye au traité de Versailles, en passant par justement la jurisprudence de ces tribunaux arbitraux mixtes. Notons néanmoins que le tribunal se déclare incompétent pour la quasi-totalité des requêtes des déportés. Il estime effectivement que les dommages et ses conséquences, donc les salaires, les frais d'entretien, etc., sont issus d'une mesure contraire aux droits des gens et non pas aux droits des contrats, comme Jacques Pirenne le prétendait dans son argumentation. Pour le tribunal, les dommages ont déjà été réparés par l'Allemagne à la Belgique par le biais justement de la commission des réparations et par ces fameux 144 millions notamment dont j'ai parlé tout à l'heure. Le seul point finalement pour lequel le tribunal se déclare compétent est celui relatif à la valeur des colis de vivres envoyés par les familles puisque les déportés ne recevaient pas ces colis. La non-livraison de ces colis tombe effectivement sous l'application des règles de contrat de transport conclues entre les expéditeurs et l'État allemand, puisque l'État allemand était responsable de ces colis qui transitaient par le courrier militaire qui dépendait effectivement de l'administration allemande. Et dans ce cas-là, le tribunal condamne l'Allemagne à réparer ce dommage. Le procès est donc un échec pour les déportés. Paradoxalement, et c'est là toute la complexité de ces traités de paix, en voulant indemniser les victimes civiles par ses propres lois et en réclamant des réparations à l'Allemagne pour couvrir les coûts engendrés, l'État belge s'est substitué aux déportés, les empêchant, selon le tribunal, justement de réclamer une indemnisation pleine et entière. Et en dépit donc des promesses et des attentes, les traités de paix contractés entre les parties belligérantes n'ont vraiment pas réussi à garantir les réparations des dommages causés du fait justement de leur complexité, puisque une partie du traité de Versailles autorisait les déportés à réclamer une réparation pleine et entière, mais une autre partie de ce même traité les en empêchait. Au final, pour mettre un terme à l'ensemble des 48 000 requêtes que Jacques Pirenne voulait présenter devant le tribunal, qu'il faudrait évidemment entre 15 et 20 ans pour juger entièrement, une transaction est négociée entre l'Allemagne, l'État belge et Jacques Pirenne. Et les déportés, j'insiste, ceux qui ont introduit une requête, pas tous les déportés, vont recevoir la somme de 438 francs, qui est une somme évidemment bien inférieure à ce qu'ils espéraient. La voie judiciaire est complètement éteinte et les déportés n'obtiendront jamais justice pleine et entière pour ce qu'ils réclamaient. Cette frustration se traduit très bien dans le calendrier de la Fédération nationale des déportés de 1925, où on voit une personnification de la Belgique qui tient dans une de ses mains une corne d'abondance d'où sort plein de billets de nouveau, qui est destinée à la reconstruction du pays. Et dans son autre main, elle tend juste un petit billet qui est destiné à toute cette masse de victimes civiles. Et le texte est lui ici très éloquent aussi. Ici des millions, là une aumône. Outre l'échec du procès, qui constitue un moment clé du combat des déportés, toutes les autres actions de la Fédération nationale des déportés ont échoué, de la recherche des coupables aux revendications pour l'amélioration des lois belges sur les réparations. Les déportés se demandent véritablement où sont passés ces 144 millions qui ont été réclamés devant la commission des réparations pour la Belgique au préjudice justement des salaires non payés. La colère gronde et finit par éclater au grand jour en janvier 1925. La Fédération envoie une lettre recommandée à tous les députés et sénateurs pour leur demander où sont passés les millions prévus pour les déportés. Jacques Pirenne explique le 12 février 1925 que, je cite, « ce que je craignais a donc commencé à se réaliser. Les déportés se sont engagés dans la politique pour obtenir une réparation qui leur semble impossible à obtenir par la voie judiciaire. » Et cette affaire des 144 millions va vraiment ne finira pas de faire couler l'encre puisque elle réapparaît périodiquement au Parlement jusque même dans les années 1960. Ainsi, en 1930, une proposition de loi est portée à l'attention des représentants, des sénateurs, des députés et propose d'élever à 10 francs par jour l'indemnité accordée par la loi de 1921. Cette proposition sera rejetée et remise sur la table en 1939 où elle n'aboutira pas non plus. La bataille politique, tout comme la bataille judiciaire, n'aboutira jamais. Les déportés sont vraiment amers. La confiance des débuts a vite fait place à la déception. Ils se considèrent vraiment comme des victimes de seconde zone, De plus, leur image au sein de la société belge est vraiment une image troublée, car elle est teintée du spectre du travail volontaire, puisque, comme je l'ai dit, les déportations ont eu pour conséquence une augmentation drastique du nombre de volontaires à partir de l'automne 1916 et surtout à partir de 1917. Ce sentiment de dépit est encore accentué par la procédure même d'indemnisation. En effet, les déportés doivent vraiment prouver devant leurs juges des tribunaux de dommages de guerre leur attitude patriotique, autrement dit qu'ils n'ont pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi. Alors certes, ils sont reconnus par l'État au niveau législatif, mais l'immédiateté de la reconnaissance nationale des héros comme les soldats ou les fusillés, la lenteur des tribunaux et la maigre réparation qui est accordée entretiennent encore plus ce sentiment de dépit. Alors que aussi les soldats se voient attribuer les médailles commémoratives, médaille de l'Isère ou médaille de la Victoire, dès 1918, les déportés vont devoir attendre jusqu'au 27 novembre 1922 pour obtenir la croix des déportés. Là encore, cette décoration fera l'objet de protestations de la part des associations de déportés, car elle est refusée aux personnes qui étaient en âge de partir combattre, de rejoindre l'armée belge. Autre exemple, lors des cérémonies commémoratives, les déportés sont toujours reportés au second rang des victimes de la guerre. Et ces combats d'après-guerre et l'image trouble des déportés expliquent véritablement l'absence de mémoire nationale au profit d'une mémoire exclusivement locale. Bruxelles ne compte pas de monuments dédiés aux déportés, bien que des monuments existent en province, sur lesquels, toutefois, ils occupent rarement une place à part entière. On peut voir ici les monuments de Lessines, de Soigny et de Dave, où on voit à chaque fois le soldat et le déporté, mais ils sont toujours ensemble. Il n'y a jamais de monument spécifique aux déportés seuls. Il en va de même pour la toponymie. Alors qu'il n'existe aucune rue dédiée à la mémoire des déportés belges à Bruxelles, alors qu'une multitude d'axes ont été rebaptisés en fonction de la guerre, je cite par exemple le boulevard Général Jacques, l'avenue de Brockville, la place des Héros, le boulevard Adolphe Max, on ne voit pas de rue dédiée à la mémoire des déportés à Bruxelles. En revanche, on voit se multiplier les rues de la déportation, les rues des déportés. Ici à Jodogne, vous avez l'avenue des déportés, qui est donc dédiée aux déportés de 1914-1918. Ces rues sont souvent proches des gares d'où sont partis justement les déportés. Alors, ce combat perdu et de longue haleine des déportés explique pourquoi, aujourd'hui, les déportations restent un pan largement méconnu de l'histoire de la Première Guerre mondiale dans la mémoire collective de notre société. Je vous remercie pour votre attention.
Vous étiez le 6 novembre 2018 au Centre culturel de Jodogne à l'invitation de l'extension de l'ULB. L'historien Arnaud Charron revenait sur les déportations de la population belge durant la Première Guerre mondiale. Retrouvez d'autres conférences sur le site www.ulb.ac.be/extension.
Sur Radio Campus, je sais pas. Radio Campus, non de bras.